France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un prétendant qui invite sa promise à venir voir l'un de ses jours pour la divertir, la dissection d'une femme, sur quoi il doit raisonner. Le divertissement sera agréable, à coup sûr. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Il faut dire que le prétendant, un niais, veut devenir le gendre d'un grand malade ou soi-disant tel. Et il veut lui éviter de prendre froid, un manteau fourré, un bonnet pour les oreilles. Chacun sait que rien n'enrhume plus que prendre l'air par les oreilles. Grand malade, mais heureusement, insinuatif, préparatif, rémoliant, détersif, carminatif, les clistères sont là et enrichissent Monsieur Florent et Monsieur Purgon. Heureusement, il y a Toinette. Bref, voici Le Malade Imaginaire, proposé par la Société des Comédiens Français le 22 décembre 1974 sur France Culture.
L'ORTF et la Comédie Française vous invitent à écouter Le Malade Imaginaire. En préface à cette émission, les stances à Molière de Boileau par Jean Piat, sociétaire honoraire.
En vain, mille jaloux esprits, Molière, osent avec mépris censurer ton plus bel ouvrage. Sa charmante naïveté s'en va pour jamais, d'âge en âge, divertir la postérité. Que tu ris agréablement, que tu badines savamment. Celui qui sut vaincre Numance, qui mit Carthage sous sa loi, jadis, sous le nom de Terence, sut-il mieux badiner que toi? Ta muse, avec utilité, dit plaisamment la vérité. Chacun profite à ton école, tout en est beau, tout en est bon, et ta plus burlesque parole est souvent un docte sermon. Laisse gronder tes envieux, ils ont beau crier en tout lieu qu'en vain tu charmes le vulgaire, que tes vers n'ont rien de plaisant. Si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant.
Après les stances à Molière de Boileau, voici Le Malade Imaginaire, d'après la mise en scène de Jean-Laurent Cochet. Musique de Michel Magne, réalisation Jacques Régnier. Voici quelle en sera la distribution. Messieurs Jacques Charon, Argan, malade imaginaire, Jacques Ezer, monsieur Diafoirus, médecin, Jacques Toja, Bérald, frère d'Argan, François Beaulieu, monsieur Purgon, médecin d'Argan, Alain Feydeau, monsieur Bonnefoy, notaire, Marcel Tristany, le récitant, Jean-Paul Moulineau, monsieur Fleurant, apothicaire, Jean-Noël Sissia, Cléante, amant d'Angélique, Philippe Rondest, Thomas Diafoirus, et mesdemoiselles Françoise Seigné, Toinette, la servante, Bérangère Dautin, Béline, seconde femme d'Argan, Catherine Salvia, Angélique, fille d'Argan, Emmanuel Millou, Louison, fille d'Argan et sœur d'Angélique.
Thank you.
Paris, dans la chambre d'Argan. Toinette, la servante, entre. Elle ouvre les volets. Elle prend un broc et jette quelques gouttes d'eau sur le visage du malade. Pendant que Toinette met de l'ordre dans la chambre, Argan se lève et se dirige vers la table. Il s'assied et, au fur et à mesure qu'il vérifie des ordonnances, il met des pièces dans une bourse.
3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e. Un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Oui. Mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement, je suis votre serviteur. Je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols, les voilà 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clistère détersif composé avec catholicon. Double, rhubarbe, miel rosa et autres suivant l'ordonnance. Pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur, 30 sols, avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours, le soir, un julep hépatique, soporatif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur, 35 sols, mais je ne me plains pas de celui-ci car il me fit bien dormir, 10, 15, 16 et 17 sols, 6 deniers. Plus du 25e, une bonne médecine purgative corroborative, composée de casses récentes avec séné levantin et autres, suivant l'ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur. 4 livres. Monsieur Florent, c'est se moquer. Il faut vivre avec les malades.
Oh là là.
Monsieur Purgon ne vous a pas ordonné de mettre 4 francs. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 30 sols. Plus du 10 jours, une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur. 30 sols. Bon. 10 et 15 sols. Plus du 26e, un clistère carminatif pour chasser les vents de monsieur. 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus le clistère de monsieur réitéré le soir comme dessus. 30 sols, monsieur Florent, 10 sols. Plus du 27e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur. 3 livres. Bon. 20 et 30 sols. Je suis bien aise que vous soyez raisonnable. Plus une potion cordiale et préservatrice composée avec 12 grains de bézoard. Bon. Sirop de limon et grenade et autres suivant l'ordonnance. 5 livres. Monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. 20 et 40 sols. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 60 et 3 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me le porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Oh, je lirai à M. Purgon, afin qu'il mette ordre à tout cela. Allons. Oh, qu'on m'ôte tout ceci. Oh. Il n'y a personne. Ah, oh, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Bah, ils n'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Draline, Draline, Draline. À point d'affaire. Draline, Draline, Draline. Ils sont sourds, Toinette. Draline, Draline, Draline. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne, un coquine. Draline, 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 l'orage. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Draline, 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 voilà qui est pitoyable. Draline, Draline, oh mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Draline, Draline.
On y va.
Diantre soit faite votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet.
Maîtresse. Il y a une heure. Il y a une heure. Tu m'as laissé. Mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle.
Ça, mon, ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait.
Tu m'as fait gosiller, Caronne.
Et vous m'avez fait vous casser la tête. L'un vaut bien l'autre. Quitte à quitte, si vous voulez.
Quoi, coquine?
Si vous querellez, je pleurerai.
Me laisser, traîtresse. Chienne, tu veux? Quoi, il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller?
Mais quereller tout votre sou, je le veux bien.
Tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup.
Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas trop.
On va passer par là. Frotte-moi ceci, coquine. Frotte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré?
Votre lavement?
Oui, ai-je bien fait de la bile?
Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là et c'est à Monsieur Fleurant à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit.
Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre.
Ce monsieur Fleurant-là et ce monsieur Purgon s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. J'aimerais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes.
Mais taisez-vous, ignorante. C'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine.
Oh, oh, oh,
oh, oh, qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose.
La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée.
Ah, approchez, Angélique. Vous venez à propos, je voulais vous parler.
Me voilà. Prête à vous ouïr.
Oh, attendez. Donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à l'heure.
Allez, monsieur, allez. Monsieur Fleurant nous donne des affaires.
Toinette.
Quoi?
Regarde-moi un peu.
Eh bien, je vous regarde.
Oh, Antoinette.
Eh bien, pour Antoinette.
Ne devines-tu point de quoi je veux parler?
Je m'en doute assez, de notre jeune amant. Car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure.
Puisque tu connais cela, connais-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours?
Vous ne m'en laissez pas le temps. Et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir.
Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui. Et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui?
Je n'ai garde.
Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions?
Mais je ne dis pas cela.
Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi?
Adieu ne plaise.
Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel? Quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance?
Ah oui.
Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense, sans me connaître, est tout à fait d'un honnête homme?
Ah oui.
Que l'on ne peut en user plus généreusement?
D'accord.
Et qu'il fit tout cela de la meilleure grâce du monde?
Oh oui.
Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne?
Oui, assurément.
Qu'il a l'air le meilleur du monde?
Sans doute.
Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble?
Cela est sûr.
Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit?
Il est vrai.
Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient? Qui bouche tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire.
Oh, vous avez raison.
Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit?
Hé hé, ces choses-là sont parfois sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus.
Antoinette, que dis-tu là?
Oh,
hélas, de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai?
En tous les cas, vous en serez bientôt éclaircie. Et la résolution, il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage? Est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non? C'en sera là la bonne preuve.
Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme.
Oh, non, non, voilà votre père qui revient.
Ah, ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle. Ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage.
Oh!
Qu'est-ce que cela, vous voyez? Ah, cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. Eh bien, à ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier.
Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner.
Ah, c'est bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promis.
C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés.
Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela.
La bonne bête a ses raisons.
Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté. Et ma parole est donnée.
Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés.
En vérité, je vous sais bon gré de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie.
Mais je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que je serais content. Et toi aussi.
Assurément, mon père.
Comment tu l'as vu?
Puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que, dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre.
Ils ne m'ont pas dit cela? Bah, mais j'en suis bien aise et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait.
Oui, mon père.
De belle taille.
Sans doute.
Agréable de sa personne.
Assurément.
De bonne physionomie.
Très bonne.
Sage et bien né.
Tout à fait.
Fort honnête.
Le plus honnête du monde.
Qui parle bien latin et grec.
C'est ce que je ne sais pas.
Ah, et qui sera reçu médecin dans 3 jours.
Lui, mon père?
Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit?
Non, vraiment.
Oh.
Qui vous l'a dit à vous?
Et Monsieur Purgon.
Est-ce que Monsieur Purgon le connaît?
Bah, la belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu.
Cléante, neveu de Monsieur Purgon?
Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage.
Eh oui!
Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Nous avons conclu ce mariage, Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi, et ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce? Voilà, tout est bobie.
C'est mon père que je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre.
Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin?
Oui! De quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es!
Et mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage?
Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis... Je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances.
Oh bien voilà, dire une raison, il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience, est-ce que vous êtes malade?
Comment, coquine, si je suis malade? Si je suis malade, impudent!
Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en meurs d'accord. Oh.
Et plus malade que vous ne pensez... Voilà qui est fait.
Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin.
C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père.
Enfin, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil?
Quel est-il, ce conseil?
C'est de ne point songer à ce mariage-là.
Et la raison?
La raison, c'est que votre fille n'y consentira point.
Elle n'y consentira
non,
pas, ma fille.
Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafrarus, ni de son fils Thomas Diafrarus, ni de tous les Diafrarus du monde.
Mais j'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente.
Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche.
8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père.
Ma foi, monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Elle n'est pas faite pour être Madame Diafoirus.
Et je veux, moi, que cela soit.
Et fille, ne dites pas cela.
Comment que je ne dise pas cela?
Et non.
Et pourquoi ne dirais-je pas?
On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites.
On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée.
Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas.
Je l'y forcerai bien.
Elle ne le fera pas, vous dis-je.
Elle le fera. Ou je la mettrai dans un couvent.
Vous?
Moi.
Bon.
Comment bon?
Vous ne la mettrez point dans un couvent?
Je ne la mettrai point dans un couvent?
Non.
Non?
Non.
Ouais, voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux.
Non, vous dis-je.
Qui m'en empêchera?
Vous-même.
Moi?
Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là.
Je l'aurai.
Vous vous moquez?
Je ne me moque
point. La tendresse paternelle vous prendra.
Elle ne me prendra point.
Une larme ou deux, des bras jetés au cou, à mon petit papa mignon, prononcez tendrement, sera c'est pour vous toucher.
Tout cela ne fera rien.
Oui, oui.
Je vous dis que je n'en démordrai point.
Bagatelle.
Il ne faut point dire bagatelle.
Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon, naturellement.
Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux.
Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade.
Oh. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis.
Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien.
Mais où est-ce donc nous sommes? Et quelle audace est-ce là, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître?
Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de leur dresser.
Oh, insolent! Il faut que je t'assomme.
Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer.
Allez, viens, viens que je t'apprenne à parler.
Je m'intéresse comme je dois, ne vous pouvez laisser faire de folie.
Chienne.
Non, je ne consentirai jamais à ce mariage.
Panda.
Je ne veux pas qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus.
Carogne.
Et elle m'obéira, plutôt qu'à vous.
Angélique, tu ne veux pas m'arrêter, cette coquine-là.
Mais mon père, ne vous faites point malade.
Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction.
Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit.
Oh, oh, je n'en puis plus, voilà, pour me faire mourir.
Oh.
Ma femme approchée. Oh.
Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
Oh, venez-vous-en ici à mon secours.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Mamie.
Mon ami.
On vient de me mettre en colère.
Hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami?
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.
Ne vous passionnez donc point.
Elle m'a fait enrager, mamie.
Doucement, mon fils.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Ah là, tout doux.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade.
Oh! C'est une impertinence.
Oh, vous savez, mon cœur, ce qui en est.
Oui, mon cœur, elle a tort.
Mais moi, cette coquine-là me fera mourir.
Et là, et là.
Elle est cause de toute la bile que je fais.
Ne vous fâchez point tant.
Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser.
Mon Dieu, mon fils. Il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Hola, Toinette.
Madame.
Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère?
Moi, madame? Et là, je ne sais ce que vous voulez dire et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toute chose.
Oh, la traîtresse!
Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent.
Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison.
Oh, maman, vous la croyez? Mais c'est une scélérate! Elle m'a dit sans insolence!
Eh bien, je vous crois, mon ami! Là! Remettez-vous! Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré. Et des oreillers! Que je l'accommode dans sa chaise. Voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles.
Oh, mamie, que je vous suis obligée de tous les soins que vous prenez de moi.
Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci derrière votre dos. Celui-ci pour vous appuyer. Et celui-là, de l'autre côté. Et cet autre-là, pour soutenir votre tête.
Et celui-là, pour vous garder du serin.
Oh, coquine, tu veux m'étouffer?
Hé là. Mais qu'est-ce que c'est donc?
Non, je n'en fuis plus.
Pourquoi vous emportez ainsi à la crue furbine?
Oh, vous ne connaissez pas, maman, la malice de la pandarde. Elle m'a mis tout hors de moi. Il faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci.
Là, là, mon petit ami, apaisez-vous un peu.
Oh, mamie. Oh, vous êtes toute ma consolation.
Pauvre petit-fils.
Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament.
Ah, mon ami, ne parlons pas de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur.
Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire.
Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi.
Mais faites-le donc entrer, maman.
Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on est guère en état de songer à tout cela.
Ah. Approchez. Monsieur de Bonnefoy, approchez, prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme et tout à fait de ses amis, et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire.
Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là.
Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament.
Mais pourquoi ?
La coutume y résiste. Oh. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris, et dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se peut et la disposition serait nulle. Tout l'avantage, comme les femmes conjointes par mariage se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel de leur vivant. Encore faut-il qu'il n'y ait d'enfants, soit des deux conjoints, ou de l'un d'eux, lors du décès du premier mourant.
Voilà une coutume bien impertinente. Qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire.
Ce n'est pas à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi.
Oh.
Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes et qui savent passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses, autrement nous ne ferions rien. Et je ne donnerais pas un sou de notre métier.
Ah, ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Et comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants?
Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme auquel vous donnerez en bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez, et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourrez avoir payables aux porteurs.
Mon Dieu, il ne faut pas vous tourmenter de tout cela. S'il vient faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde.
Mamie.
Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre...
Ma chère femme.
La vie ne me sera plus de rien.
Mamour.
Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous.
Oh, mamie, vous me fendez le cœur. Consolez-vous, je vous en prie.
Ces larmes sont hors de saison et les choses n'en sont point encore là.
Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement.
Oh. Tout le regret que j'aurai si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire, hein.
Cela pourra venir encore.
Bon. Non, il faut faire mon testament, m'amour, de la façon que monsieur dit, mais par précaution, je vais vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve et 2 billets payables aux porteurs qui me sont dus, l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Géronte.
Non, non, je ne veux point de tout cela. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve?
20 000 francs, m'amour.
Ne me parlez point de bien, je vous prie. Oh. De combien sont les 2 billets?
Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6.
Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous.
Voulez-vous que nous procédions au testament?
Oui, monsieur.
Mamour, conduisez-moi, je vous prie. Nous serons mieux dans mon petit cabinet.
Allons, mon pauvre petit-fils.
Les voilà avec un notaire. J'ai ouï parler de testament, votre belle-mère ne s'endort point. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père.
Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les desseins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis.
Moi, vous abandonner? J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts. J'ai jamais eu d'inclination pour elle. J'ai toujours été de votre côté, laissez-moi faire. J'emploierai toutes choses pour vous servir. Mais pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère.
Toinette !
Voilà qu'on m'appelle. Allez, reposez-vous sur moi.
Paraît Cléante, amant d'Angélique.
Que demandez-vous, monsieur?
Ce que je demande.
Oh, c'est vous, quelle surprise! Que venez-vous faire, séant?
Parlez à l'aimable Angélique. Consultez les sentiments de son cœur. Savoir ma destinée. Lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti.
Oui, mais on ne parle pas comme ça du but en blanc. Angélique, il y faut des mystères. Vous savez, les trois de garde où elle est retenue. Qu'on ne la laisse ni sortir, ni parler à personne. Et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui nous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donna lieu à la naissance de votre passion. Nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure.
Aussi ne viens-je pas ici comme Cléante et sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place.
Voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là.
Monsieur Purgon m'a dit de me promener dans ma chambre douze allées et douze venues, mais j'ai oublié de lui demander si c'est en long ou en large.
Bon.
Monsieur, voilà...
Par le bas, au pandarde. Oh, tu viens m'ébranler tout le cerveau. Et tu ne songes pas qu'il ne faut point parler si haut à des malades.
Je voulais vous dire,
par
monsieur...
Par le bas, te dis-je.
Monsieur.
Hein?
Je dis que...
Mais qu'est-ce que tu dis?
Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous.
Qu'il vienne.
Monsieur.
Monsieur.
Ne parlez pas si haut. De peur d'ébranler le cerveau de monsieur.
Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux.
Bon.
Comment qu'il se porte mieux, cela est faux. Monsieur se porte toujours mal.
J'ai ouï dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage.
Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais. Ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté.
Elle a raison.
Il marche, dort, mange et boit comme tout le monde, mais cela n'empêche pas qu'il ne soit fort malade.
Cela est vrai.
Monsieur, j'en suis au désespoir.
Je
viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours, et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons. De peur qu'en les interrompant, elle ne vint à oublier ce qu'elle sait déjà.
Fort bien appelé, Angélique.
Je crois, monsieur, qu'il serait mieux de mener monsieur à sa chambre.
Non, faites l'avenir.
Il ne pourra lui donner le son comme il faut s'il ne sent en particulier.
Si fait, si fait.
Monsieur, ça ne fera que vous étourdir. Il ne faut rien pour vous émouvoir. En l'état d'où vous êtes. Et vous ébranler le cerveau.
Point, point, j'aime la musique.
Oh.
Et je serais bien aise de... Ah, voilà, voici. Allez-vous-en voir si ma femme est habillée. Venez, ma fille. Votre maître de musique est allé au champ. Et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer.
Oh, c'est...
Mais qu'est-ce, d'où vient cette surprise,
hein? C'est...
Bah quoi, qui vous émeut de la sorte?
C'est mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici.
Comment?
J'ai songé, cette nuit, que j'étais dans le plus grand embarras du monde, et qu'une personne faite tout comme monsieur s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément, en arrivant ici, ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit.
Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand, sans doute, si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer. Il n'est rien que je ne fisse pour...
Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diafoirus le père et monsieur Diafoirus le fils qui viennent vous rendre visite. Que vous serez bien engendré. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que deux mots qui m'ont ravi. Et votre fille va être charmée de lui.
Ne vous en allez point, monsieur, c'est que je marie ma fille. Et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu.
Oh, c'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable.
C'est le fils d'un habile médecin et le mariage se fera dans 4 jours.
Fort bien.
Mandez-le un peu à son maître de musique afin qu'il se trouve à la noce.
Je n'y manquerai pas.
Je vous y prie aussi.
Vous me faites beaucoup d'honneur.
Allons, qu'on se range. Les voici.
Monsieur Purgon, monsieur, m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences.
Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de l'incommodité. Nous venons ici, monsieur, mon fils, Thomas, et moi, vous témoigner, monsieur, le ravissement où nous sommes de la grâce que vous nous faites, de vouloir bien nous recevoir dans l'honneur, monsieur, de votre alliance, et vous assurer que dans les choses qui dépendront de notre métier, de même qu'en tout autre, nous serons toujours prêts, monsieur, à vous témoigner notre zèle.
Allons, Thomas.
Alors, avancez, faites vos compliments.
N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer ?
Oui.
Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois et d'autant plus je tiens précieuse cette... future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages.
Vive les collèges d'où l'on sort si habile homme.
Cela a-t-il bien été, mon père ?
Optimé.
Allons, ma fille. Saluez, monsieur.
Baiserai-je, mon père ?
Baiser, Thomas.
Madame. C'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère.
Non, ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez.
Où donc est-elle ?
Elle va venir.
Attendrai-je mon père qu'elle soit venue ?
Faites toujours le compliment de mademoiselle.
Baiserai-je de rechef, mon père ?
Rebaiser Thomas.
Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'ores en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'apporte aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle, serviteur et mari.
Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses.
Eh, que dites-vous de cela ?
Oh, que monsieur fait merveille. Et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades.
Cela est vrai, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours.
Mais allons vite, des sièges à tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela.
Oh, monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé. On le voyait toujours doux, paisible et taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantin. On eut toutes les
la peine du monde à lui apprendre à lire. Il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui produisent les meilleurs fruits. Mmh. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable, mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Mmh. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination, est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine. Mais il se raidissait contre les difficultés. Ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement avoir ses licences. Ah. Et je puis dire, sans vanité, que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable et il ne s'y passe point d'acte où il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui me plaît en lui, en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine.
J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit.
Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je ne me connais pas à ces choses-là.
Donnez, donnez, elle est toujours bonne à prendre. Pour l'image, cela servira à parer notre chambre.
Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme. Sur quoi je dois raisonner?
Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant.
Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que, selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter, qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés.
N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin?
Oh, vous en parlez franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable et j'ai toujours trouvé qu'il valait bien mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode, vous n'avez à répondre de vos actions à personne et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse.
Ça est plaisant, ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres messieurs vous les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux à guérir, s'ils peuvent.
Cela est vrai. On est obligé qu'à traiter les gens dans les formes.
Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie.
J'attendais vos ordres, monsieur. Et il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu.
Tenez, prenez votre parti.
Moi ?
Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez-vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter.
Je n'ai pas une voix à chanter, mais il suffit que je me fasse entendre. L'on aura la bonté de m'excuser dans la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle.
Les vers en sont-ils beaux ?
C'est proprement ici un petit opéra impromptu. Et vous n'allez entendre chanter que de la prose ou des manières de vers libres.
Fort bien, écoutons.
Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que de commencer, lorsqu'il fut tiré de son attention par un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. Après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Dès cette première vue, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. La force de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut vivre, et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. « Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tircis prenne place dans votre cœur ?»«
Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime.
Oh, oh parole pleine d'appât, redites-les 100 fois que je n'en doute pas.
Oui, Tircis, je vous aime. Oui, Tircis, je vous aime.
Mais Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival, un rival.
Oh, je lui ai
plus que la mort. Mais un père, à ses voeux, vous veut assujettir.
Plutôt mourir, que ne jamais y consentir. Plutôt mourir, plutôt mourir.
Et que dit le père à tout cela?
Ah, il ne dit rien.
Bon, voilà un sot père que ce père-là de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire.
Ah, oh, mon amour.
Non, voilà, c'est... Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Mais... Bah, où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite.
Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles... Avec les notes même?
Fort bien, je suis votre serviteur, monsieur, jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent opéra.
J'ai cru vous divertir.
Les sottises ne divertissent pas. Ah, oh, voici ma femme. Mamour, voilà le fils de monsieur Diafoirus.
Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère.
Monsieur, je suis ravi d'être venu ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir.
Puisque l'on voit sur votre visage. Puisque l'on voit sur votre visage. Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période et cela m'a troublé la mémoire.
Trop tard! Réservez cela pour une autre fois.
Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi comme à votre mari.
Mon père!
Il y a quoi, mon père? Qu'est-ce que cela veut dire? Oh.
De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclination, si nécessaire, à composer une union parfaite.
Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi et je n'ai pas besoin d'attendre davantage.
Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme.
Oh, bien, bien, cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble.
Mais mon père, donnez-moi du temps. Je vous prie, le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte.
Nego consequentiam, mademoiselle. Et je puis être honnête homme et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père.
C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence.
Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on menait mariées, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme.
Les anciens, monsieur, sont les anciens. Et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle. Et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux.
Oui, mademoiselle, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement.
Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celles qu'on aime.
Distingo, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession contre ses dons, mais dans ce qui la regarde. Nego.
Vous avez beau raisonner, monsieur Effray est moulu du collège, il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister, refuser la gloire d'être attachée au corps de la faculté?
Elle a peut-être quelque inclination en tête.
Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre.
Ouais, je joue ici un plaisant personnage.
Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais.
Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés.
C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois.
Le devoir d'une fille a des bornes, madame. Il a raison et les lois ne l'étendent point à toutes sortes de choses.
C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie.
Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer à en épouser un. Que je ne puisse aimer.
Oh, monsieur, je vous demande pardon de tout ceci.
Chacun a son but en se mariant. Pour moi qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leurs dépouilles. Ces personnes-là, les vérités, n'y cherchent point tant de façon et regardent peu à la personne.
Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là.
Moi, madame? Mais que voudrais-je dire que ce que je dis?
Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir.
Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage.
Il n'est rien d'égal à votre insolence.
Non, madame, vous avez beau dire.
Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde.
Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage en dépit de vous. Et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue.
Écoute, il n'y a pas le milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours, ou monsieur, ou un couvent. Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien.
Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt.
Allez, m'amour. Et passez chez votre notaire, afin qu'il expédie ce que vous savez.
Adieu, mon petit ami.
Adieu, mamie. Ah, voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable.
Nous allons, monsieur, prendre congé de vous.
Oh, je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis.
Alors, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis?
Dico, que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien.
Bon.
Qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur.
Fort bien.
Repoussant.
Peiné.
Et même un peu capricorne.
Optimé.
Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique. C'est-à-dire la rate.
Oh bien.
Ah non, monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade.
Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble, par le moyen du bas bref, du pylore et souvent des méas colidoc. Thomas, il vous ordonne sans doute de manger force rôti.
Ah non, rien que du bouilli.
Eh oui, rôti bouilli, même chose, il vous ordonne fort prudemment et vous ne pouvez être en de meilleures mains.
Monsieur, Thomas, monsieur, Thomas. Combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf?
6, 8, 10, par les nombres pairs. Comme dans les médicaments, par les nombres impairs. Jusqu'au revoir, monsieur. Thomas! Thomas! Thomas!
Je viens, mon fils, avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde.
Oh.
En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle, qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu.
Un jeune homme avec ma fille?
Oui. Votre petite Louison était avec eux. Qui pourra vous en dire des nouvelles?
Envoyez-la ici, m'amour. Envoyez-la ici. Ah, l'effrontée. Je ne m'étonne plus de sa résistance.
Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez.
Oui, Vanessa. Avancez-la. Tournez-vous. Levez les yeux. Regardez-moi. Hé ?
Quoi, mon papa ?
Là !
Quoi ?
N'avez-vous rien à me dire ?
Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Peau d'Âne. Ou bien la fable du corbeau et du renard qu'on m'a appris depuis peu.
Ce n'est pas là ce que je vous demande.
Quoi donc ?
Rusé, vous savez bien ce que je veux dire.
Pardonnez-moi, mon papa.
Est-ce là comme vous m'obéissez ?
Quoi ?
Ne vous ai-je pas recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez?
Oui, mon papa.
L'avez-vous fait?
Oui, mon papa. Je vous suis venu dire tout ce que j'ai vu.
Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui?
Non, mon papa.
Non?
Non, mon papa.
Assurément?
Assurément.
Ah ça, je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi.
Ah, mon papa!
Ah, petite masque, vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur?
Mon papa!
Voilà qui vous apprendra à mentir.
Ah, mon papa, je vous demande pardon. C'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout.
Non, il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir menti, puis après nous verrons, reste.
Pardon, mon papa.
Non, non.
Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet.
Vous l'aurez.
Au nom de Dieu, mon papa, que je ne l'ai pas.
Ah, non, non.
Ah! Mon papa.
Hum?
Vous m'avez blessée.
Bon.
Attendez, je suis morte.
Oh là, qu'est-ce là? Oh, Louison! Louison! Ah, ah. Oh, mon Dieu, Louison, oh, ma fille, oh, malheureux, ma pauvre fille est morte. Qu'ai-je fait, misérable? Oh, oh, chienne de verge, oh, la peste soit des verges. Hein? Oh, la... Oh, oh, ma pauvre fille, oh, 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 ma pauvre petite Louison, oh, oh, oh.
Là, là, mon papa, ne pleurez point tant, je ne suis pas morte tout à fait.
Oh, voyez-vous la petite rusée, hein? Ça, je vous pardonne pour cette fois-ci, pourvu que vous me disiez bien tout.
Ah, oui, mon papa.
Prenez-y bien garde au moins.
Car voilà un petit doigt qui sait tout et qui me dira si vous mentez.
Mais mon papa, ne dites pas à ma sœur que je vous l'ai dit.
Non, non.
C'est mon papa qu'il est venu un homme dans la chambre de ma sœur comme j'y étais.
Eh bien.
Je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter.
Ah bon, voilà l'affaire. Eh bien.
Ma sœur est venue après.
Eh bien.
Elle lui a dit, sortez, sortez, mon Dieu, sortez, vous me mettez au désespoir.
Eh bien.
Et lui, il ne voulait pas sortir.
Ah, et qu'est-ce qu'il lui disait?
Il lui disait je ne sais combien de choses.
Mais quoi encore?
Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde.
Et puis après?
Et puis après, il se mettait à genoux devant elle.
Et puis après?
Et puis après, il lui baisait les mains.
Et puis après?
Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui.
Il n'y a point autre chose?
Non, on ne voit pas.
Hein? Voilà mon petit doigt pourtant qui gronde quelque chose. Attendez. Et? Ah! Oh, 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 voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit.
Ah, mon papa, votre petit doigt est un menteur.
On y garde. Hein?
Non, mon papa, ne le croyez pas. Il ment, je vous assure.
Bien. Bien, nous verrons cela. Allez-vous-en et prenez bien garde à tout, hein? Ah, il n'y a plus d'enfants. Oh, que d'affaires. Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. En vérité, je n'en puis plus. Oh.
Argan se remet dans sa chaise de malade.
Eh bien, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez-vous?
Bon, mon frère, fort mal.
Oh, comment fort mal?
Oh, je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable.
Voilà qui est fâcheux.
Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler.
J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti. Pour ma nièce Angélique.
Ah, mon frère, ne me parlez pas de cette coquine-là. C'est une friponne, une impertinente, une effrontée que je mettrai dans un couvent avant qu'il se passe deux jours.
Ah, voilà qui est bien. Je suis bien à ce que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien.
Bon.
Ah, oh ça, mon frère. Voulez-vous que nous parlions un peu d'affaires ensemble?
Un peu de patience, mon frère. Je vais revenir.
Tenez, monsieur, vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans bâton?
Tu as raison.
N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce.
Mais j'emploierai toutes choses pour obtenir ce qu'elle souhaite.
Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qu'il s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici un médecin à notre poste pour le dégoûter de son monsieur Purgon et lui décrier sa conduite.
Oh.
Mais comme nous n'avons personne en main pour cela... J'ai résolu de jouer un tour de ma tête.
Mais comment?
Oh, c'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être plus heureux que ça.
Voici notre offre.
Laissez-moi faire, mais agissez de votre côté.
Ah.
Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande avant toute chose de ne vous point échauffer l'esprit dans notre conversation?
Voilà qui est fait.
De répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrais vous dire?
Oui.
Et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à parler avec un esprit détaché de toute passion?
Mon Dieu, oui, voilà bien du préambule. Ah,
d'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez et n'ayant d'enfant qu'une fille, car je ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent?
D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble?
Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de vos deux filles. Et je ne doute pas que par un esprit de charité, elle ne fût bien aise de les voir toutes deux bonnes religieuses.
Ah, ça nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut.
Non, enfin, laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, qui est détachée de toutes sortes d'intérêts, qui a pour vous une tendresse merveilleuse et qui montre pour vos enfants une affection et une bonté qui n'est pas concevable. Cela est certain. N'en parlons plus. Revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin?
Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut.
Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille. Et il se présente un parti plus sortable pour elle.
Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi.
Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être mon frère ou pour elle ou pour vous?
Il doit être mon frère et pour elle et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin.
Pour cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire.
Et pourquoi non?
Mais est-il possible que vous serez toujours en béguinée de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade, en dépit des gens et de la nature?
Comment l'entendez-vous, mon frère?
J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous.
Oh!
et que je ne demanderai point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien et que vous avez un corps parfaitement bien composé. C'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre.
Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve? Et que M. Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi.
Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous qu'il vous enverra dans l'autre monde.
Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine?
Non, mon frère. Et je ne vois pas pour son salut qu'il soit nécessaire d'y croire.
Quoi, vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révélée?
Bien loin de la tenir véritable. Je la trouve entre nous une des plus grandes folies qui soient parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie. Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre.
Et pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre?
Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères. Bah, jusqu'ici, où les hommes ne voient goutte. Et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose.
Les médecins ne savent donc rien, à votre compte.
En si fait, mon frère. Ah. Ils savent de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir, les diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent pas du tout.
Mais toujours faut-il demeurer d'accord que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres.
Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatien, en un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets.
Mais il faut bien que les médecins croient leur art véritable puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes.
C'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Pourtant, M. Purgon, par exemple, n'y sait point de finesse. C'est un homme tout médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds, un homme qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux, rien de difficile. Il ne lui faut point vouloir mal de tout ce qu'il pourra vous faire. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera. Et il ne fera en vous tuant que ce qu'il fait à sa femme, à ses enfants, et ce qu'en a besoin, il ferait à lui-même.
Venons au fait. Que faire donc quand on est malade?
Rien.
Rien?
Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie.
Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses.
Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées dont nous aimons à nous repaître. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit, de lui donner ce qui lui manque, lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus.
C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête. Et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle.
Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles du monde. Voyez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes.
Ouais, vous êtes un grand docteur, à ce que je vois. Je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet.
Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine. Et chacun, à ses périls et fortunes, peut bien croire tout ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous. J'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière.
C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Je trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.
Mais ce ne sont pas les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine.
C'est bien à lui d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là.
Que voulez-vous qu'il y mette, que les diverses professions des hommes? On y met bien tous les jours les princes et les rois qui sont aussi bonnes maisons que vos médecins.
Alors, nom de diable, et si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement. Et je lui dirai crève, crève, cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté.
Vous voilà bien en colère contre lui?
Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils font ce que je dis.
Ils sont encore plus sages que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours.
Tant pis pour lui s'il n'a point recours au remède.
Il a ses raisons pour n'en point vouloir.
Bon.
Et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie. Mais que pour lui, justement, il a de force que pour porter son mal.
Les sottes raisons que voilà, tenez mon frère, de me parler point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile et vous me donneriez mon mal.
Paraît Florent, l'apothicaire, un clistère à la main.
C'est un petit clistère que je vous apporte. Prenez vite, monsieur, il est comme il faut, il est comme il faut.
Ah, mon frère, avec votre permission.
Comment que voulez-vous faire?
Prendre ce petit lavement-là, ce sera bientôt fait.
Vous vous moquez? Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela une autre fois et demeurez un peu en repos.
Monsieur Florent, à ce soir ou à demain au matin?
De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardie, ça.
Allez, allez, monsieur. On voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages.
On ne doit point ainsi se jouer d'hermède et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance, et je vais dire à monsieur Puron comment m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez, vous verrez,
vous verrez. Vous serez cause ici de quelque malheur.
Le grand malheur de ne pas prendre le lavement que monsieur Purgon a ordonné. Encore un coup, mon frère, est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leur remède?
Mon Dieu, mon frère, vous en parlez comme un homme qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé.
Mais quel mal avez-vous?
Moi, vous me feriez enrager. Je voudrais que vous l'eussiez. Mon mal, pour voir si vous jaseriez tant.
Monsieur Purgon.
Monsieur Purgon.
Je viens d'apprendre, là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit.
Monsieur,
voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin.
Ça a été épouvantable.
Que j'avais pris plaisir à composer moi-même.
Ce n'est pas moi.
Inventé et formé dans toutes les règles de l'art.
Il a tort.
Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux, le renvoyer avec mépris.
C'est lui.
C'est une action exorbitante.
Oh, ça est vrai.
Un attentat énorme contre la médecine.
Il est cause.
Un crime de lèse faculté qui ne se peut assez punir.
Oh, vous avez raison.
Je vous déclare que je romps commerce avec vous.
C'est mon
que
frère.
Je ne veux plus d'alliance avec vous.
Vous ferez bien.
Que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage.
Mais c'est mon frère qui a fait tout le
mal. Méprisez mon clistère.
Faites-le venir, je m'en vais le prendre.
Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu.
Il ne le mérite pas.
J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs.
Oh, mon frère.
Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac.
Il est indigne de vos soins.
Puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains.
Mais ce n'est pas ma faute.
Puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin.
Sacré vengeance.
Puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs.
C'est fort bien fait.
Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable.
Oh, miséricorde.
Que vous tombiez dans la pratique.
Monsieur Purgon.
De la bradypepsie dans la dyspepsie.
Monsieur Purgon.
De la dyspepsie dans l'apepsie.
Monsieur Purgon.
De l'apepsie dans la lianterie.
Monsieur Purgon.
De la lianterie dans la dysenterie.
Monsieur Purgon.
De la dysenterie dans l'hydropisie.
Monsieur Purgon.
Et de l'hydropisie dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie.
Oh mon Dieu, je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu.
Mais quoi, qu'y a-t-il?
Je n'en puis plus, je sens déjà que la médecine se venge.
Ma foi, mon frère, vous êtes fou. Et je ne voudrais pas, pour beaucoup de choses, qu'on vous vit faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie. Revenez à vous-même et ne donnez point tant à votre imagination.
Vous voyez, mon frère, les étranges maladies dont il m'a menacé.
Le simple homme que vous êtes.
Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit 4 jours.
Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Songez que les principes de votre vie sont en vous-même et que le courroux de M. Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Voici une aventure, si vous voulez, à vous défaire des médecins. Ou si vous êtes né à ne pouvoir vous en passer, il vous est aisé d'en avoir un autre avec lequel, mon frère, vous puissiez courir un peu moins de risques.
Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir.
Oh, et quel médecin?
Un médecin de la médecine.
Bon, je te demande qui il est.
Je connais pas. Mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si j'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce serait quelque petit frère qu'elle m'aurait donné. Depuis le trépas de mon père.
Fais-le venir.
Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte et un autre se présente.
Alors, j'ai bien peur que vous ne soyez cause de quelque malheur.
Encore? Vous en revenez toujours là?
Ah, ben voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connais pas. C'est...
Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin.
Monsieur, je vous suis fort obligé. Oh, par ma foi, voilà Toinette elle-même.
Monsieur, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure.
Oui? Ne diriez-vous pas que c'est effectivement Toinette?
Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature.
Ah, pour moi, j'en suis surpris.
Que demandez-vous, monsieur?
Comment?
Ne m'avez-vous pas appelé?
Moi, non.
Oh, il faut donc que les oreilles m'écorbent.
Mais demeure un peu ici pour voir comme ce médecin te ressemble.
Oui, vraiment, j'ai affaire là-bas et je l'ai assez vu.
Ah, si je ne les voyais tous deux, je croirais que ce n'est qu'un.
Mais j'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé.
Pour moi, j'aurais été trompé à celle-là. J'aurais juré que c'est la même personne.
Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur.
C'est admirable.
Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise.
Monsieur, je suis votre serviteur.
Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous donc que j'ai?
Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans.
Ah! J'en ai 90.
Oh, 90?
Ah, oui. Vous voyez en effet les secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux.
Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans.
Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvres, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance. De bonnes fièvres, continues, avec des transports au cerveau. De bonnes fièvres, pourprées, de bonnes pestes, de bonnes idées pisiformées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe.
Oh.
Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré à l'agonie, pour vous prouver l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service.
Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi.
Donnez-moi votre pouls. À Londres, que l'on batte comme il faut. Hop ! Je vous ferai bien aller comme vous devez. Ce poule a fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin?
Monsieur Purgon.
Cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes entre les grands médecins.
Ah.
De quoi dit-il que vous êtes malade?
Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate.
Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade.
Du poumon?
Ben oui, que sentez-vous?
Je sens de temps en temps des douleurs de tête.
Ah ben justement, le poumon.
Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.
Le poumon.
J'ai quelquefois des maux de cœur.
Le poumon.
Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.
Non, le poumon.
Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. Ah, comme si c'était des coliques.
Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez?
Oui, monsieur.
Le poumon.
Le poumon.
Vous aimez avoir un peu de vin.
Ah, ah oui, monsieur. C'est le poumon.
Le poumon.
Le poumon.
Il vous prend un petit sommeil après le repas. Vous êtes bien aise de dormir.
Ah oui, monsieur. Oui.
Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture?
Du poumon. Non, il m'ordonne du potage.
Ignorant.
De la volaille.
Ignorant.
Du veau.
Ignorant.
Des bouillons.
Ignorant.
Des œufs frais.
Ignorant.
Ah, et le soir de petits pruneaux pour lâcher le ventre.
Ignorant.
Et surtout de boire mon vin fort trempé.
Ignorantus. Ignoranta, ignorante homme, il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages. De Hollande. Et du gruau, et du riz, et des marrons, et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville.
Vous m'obligerez beaucoup.
Que diantre faites-vous de ce bras-là?
Comment?
Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous.
Oh, et pourquoi?
Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter?
Ah oui, mais j'ai besoin de mon bras.
Vous avez là aussi un œil droit. Je me ferais crever si j'étais en votre place.
Crever un œil?
Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'ego.
Cela n'est pas pressé.
Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me rende à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier.
Pour un homme qui mourut hier?
Ah oui! Pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir.
Voilà un médecin qui paraît fort habile.
Ah oui, mais il va un peu bien vite.
Oh, tous les grands médecins sont comme cela.
Me couper un bras, me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot.
Envie de rire.
Qu'est-ce que c'est?
Pour votre médecin, ma foi, qui voulait me tâter le pouls.
Oui, un peu, hein. À l'âge de 90 ans.
Oh, ça, mon frère. Puisque voilà votre monsieur Purgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce?
Non, mon frère. Je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelque amourette là-dessous. Et j'ai découvert certaines entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes.
Eh bien, mon frère, quand il y aurait quelque petite inclination, cela serait-il si criminel? Et rien peut-il vous offenser quand tout ne va qu'à des choses honnêtes, comme le mariage?
Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse, c'est une chose résolue.
Vous voulez faire plaisir à quelqu'un?
Ah, je vous entends, vous en revenez toujours là. Et ma femme vous tient au cœur.
Bien oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement dans la médecine, je ne puis vous souffrir l'entêtement que vous êtes pour elle. Et de voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend.
Ah, monsieur, ne parlez pas de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire, une femme sans artifice. Et qui aime monsieur, qui l'aime. On peut pas dire cela.
Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait.
Cela est vrai.
L'inquiétude que lui donne ma maladie.
Assurément.
Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi.
Mmh. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir comme madame aime monsieur? Monsieur, souffrez qu'on lui montre son béjaune et le tire d'erreur.
Et comment?
Madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort.
Oh.
Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle.
Je le veux bien.
Mais ne la laissez pas trop longtemps dans le désespoir, car elle en pourrait bien mourir.
Oh, laisse-moi faire.
Cachez-vous, vous, dans ce coin-là.
N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort?
Mais non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Voici madame. Tenez-vous bien. Ah, mon Dieu! Oh, malheur, quel étrange accident!
Qu'est-ce, Toinette?
Oh, madame!
Qu'y a-t-il?
Votre mari est mort.
Mon mari est mort?
Hélas, oui, le pauvre défunt est trépassé.
Assurément.
Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Je me suis trouvée ici toute seule. Ils viennent passer entre mes bras. Tenez-le. Le voilà.
voilà toute seule dans cette chaise.
Le ciel en soit loué, me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort.
Je croyais, madame, qu'il fallut pleurer,
mais... Non, ça n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde?
Non.
Malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens et grondant jour et nuit, servantes et valets.
Voilà une belle raison funèbre.
Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque, par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette, prononce auparavant toutes ces clés.
Doucement!
Madame, ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez.
Le défunt n'est pas mort.
Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi.
Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses.
Eh bien, mon frère, vous le voyez?
Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous un peu comme vous étiez, voyons de quelle manière elle recevra votre mort. Mais... c'est une chose qui n'est pas mauvaise d'éprouver, puisque vous êtes en train. Vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Oh, ciel. Oh, fâcheuse aventure, malheureuse journée.
Qu'as-tu, Toinette? Et de quoi pleures-tu?
Hélas. J'ai de tristes nouvelles à vous donner.
Et quoi?
Votre père est mort.
Mon père est mort, Toinette?
Oui, vous le voyez là, il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a prise.
Oh, ciel! Quelle infortune! Quelle atteinte cruelle! Hélas, faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me restait au monde, et qu'encore pour un surcroît de désespoir, je le perde dans un moment où il était irrité contre moi? Que deviendrai-je malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande perte?
Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Et quel malheur pleurez-vous?
Hélas, je pleure tout ce que dans ma vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père.
Oh ciel, quel accident! Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux.
Ah, Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre du moins une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment.
Oh, ma fille! Mais rien! N'aie point de peur, je ne suis pas mort! Oh, bah, tu es mon vrai sang, ma véritable fille. Je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel.
Oh, quelle surprise agréable, mon père! Puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes voeux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande.
Eh, monsieur, laissez-vous toucher à ces prières et aux miennes, et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination.
Mon frère, pouvez-vous tenir la contre?
Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour?
Qu'il se fasse médecin, je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Très volontiers, et je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique.
Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même, la commodité sera plus grande encore d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut.
Cela est vrai, voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Il n'y a pas de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin.
Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi.
Puisque je suis en âge d'étudier.
Bon, étudier. Vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous.
Mais il faut savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il y faut faire.
En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Et vous serez après plus habile que vous ne voudrez.
Quoi, lancer discourir sur les maladies quand on a cet habit-là?
Oui, l'on n'a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet, tout galimatia devient savant, toute sottise devient raison.
Demandabo tibi, docte baccheliere, quae remedia eticis, pulmonicis atque asthmaticis trovas, a propos facere.
Clisterium donare, postea segnare, ensuite à purgare.
Centromedia, quae in maladia dit hydropisia, convenit facere.
Clisterium donare, postea segnare, ensuite a purgare.
Maladia opiniatria non volte se garire, quid illi facere?
Resegnare, repurgare, reclisterisare. Grandes doctores doctrine de la rhubarbe et du séné. Ce serait sans doute à moi chosa folla, inepta et ridicula. Si j'alloibam m'engageare, vobis louangea se donare. Et entreprenoibam adjoutare, des lumieras au soleilio et des étoilas au cielo, des ondas à l'océano et des rosas au printano. Agréate, qu'avec uno moto prototo remerciemento, rendam graciam corpori tam docto. Honor, favor et gracia, qui in hoc corde, et que voilà, imprimante ressentimenta, qui dureront in secula.
Juras gardere statuta per facultatem prescripta cum sensu et jugamento.
Juro.
Essere in omnibus consultationibus ancieni aviso, aut bono, aut moveso.
Juro.
De non jamais te servire de remedis aucunis quam de ceux seulement docte facultatis. Maladus dut-il crevare et mori de suo malo?
Juro.
Ego. Comisto boneto venerabili et docto. Dono tibi et concedo, virtutem et puissantiam, medicandi, purgandi, saignandi, persandi, taillandi, coupandi et occidandi, impune per totam terra.
Thank you.
venez d'entendre Le malade imaginaire, d'après la mise en scène de Jean-Laurent Cochet. Musique de Michel Magne. Les interprètes étaient messieurs Jacques Charon, Argan, Jacques Hézère, monsieur Diafoirus, Jacques Toja, Bérald, François Beaulieu, monsieur Purgon, Alain Feydeau, monsieur Bonnefoy, Marcel Tristany, le récitant, Jean-Paul Moulineau, monsieur Fleurant, Jean-Noël Sissia, Cléante, Philippe Rondeste, Thomas Diafoirus, et mesdemoiselle Françoise Seigné, Toinette, Bérangère Dautin, Béline, Catherine Salvia, Angélique, Emmanuel Millou, Louison. Pour conclure cette émission, nous vous invitons à écouter maintenant La dernière journée de Molière par Grimaret. Ce texte a été enregistré au cours d'une des soirées littéraires de Madame Dussane par Maurice Escande.
Le jour que l'on devait donner la troisième représentation du malade imaginaire, Molière se trouva tourmenté de sa fluxion beaucoup plus qu'à l'ordinaire, ce qui l'engagea de faire appeler sa femme, à qui il dit, en présence de Baron, « Tant que ma vie a été mêlée également de douleur et de plaisir, je me suis cru heureux. Mais aujourd'hui que je suis accablé de peine, sans pouvoir compter sur aucun moment de satisfaction et de douceur, je vois bien qu'il me faut quitter la partie. Je ne puis plus tenir contre les douleurs et les déplaisirs qui ne me donnent pas un instant de relâche. Mais, ajouta-t-il en réfléchissant, qu'un homme souffre avant que de mourir. Cependant, je sens bien que je finis. » La Molière et Baron furent vivement touchés du discours de M. de Molière, auquel ils ne s'attendaient pas, quelque incommodé qu'il fût. Ils le conjurèrent, les larmes aux yeux, de ne point jouer ce jour-là et de prendre du repos pour se remettre. « Comment voulez-vous que je fasse ?» leur dit-il. « Il y a 50 pauvres ouvriers qui n'ont que leur journée pour vivre. Que feront-ils si l'on ne joue pas ? Je me reprocherais d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, le pouvant faire absolument. » Mais il envoya chercher les comédiens, à qui il dit que, se sentant plus incommodé que de coutume, il ne jouerait point ce jour-là s'il n'était prêt à 4 heures précises pour jouer la comédie. « Sans cela, leur dit-il, je ne puis m'y trouver et vous pourrez rendre l'argent. » Les comédiens tinrent les lustres allumés et la toile levée précisément à 4 heures. Molière représenta avec beaucoup de difficulté et la moitié des spectateurs s'aperçurent qu'en prononçant « Jureau » dans la cérémonie du malade imaginaire, il lui prit une convulsion. Ayant remarqué lui-même que l'on s'en était aperçu, il se fit un effort et cacha par un rire forcé ce qui venait de lui arriver. Quand la pièce fut finie, il prit sa robe de chambre et fut dans la loge de Baron et il lui demanda ce que l'on disait de sa pièce. Monsieur le Baron lui répondit que ses ouvrages avaient toujours une heureuse réussite à les examiner de près et que plus on les représentait, plus on les goûtait. Mais, ajouta-t-il, vous me paraissez plus mal que tantôt. Cela est vrai, lui répondit Molière. J'ai un froid qui me tue. Baron, après lui avoir touché les mains qu'il trouva glacées, les lui mit dans son manchon pour les réchauffer. Il envoya chercher ses porteurs pour le porter promptement chez lui et il ne quitta point sa chaise de peur qu'il ne lui arrivât quelque accident du palais royal dans la rue de Richelieu où il logeait. Quand il fut dans sa chambre, Baron voulut lui faire prendre du bouillon dont la Molière avait toujours provision pour elle car on ne pouvait avoir plus le soin de sa personne qu'elle en avait. « Et non, dit-il, les bouillons de ma femme sont de vraies eaux fortes pour moi. Vous savez tous les ingrédients qu'elle y fait mettre. Donnez-moi plutôt un petit morceau de fromage de parmesan. » La forêt lui en apporta. Il en mangea avec un peu de pain et il se fit mettre au lit. Il n'y eut pas été un moment qu'il envoya demander à sa femme un oreiller rempli d'une drogue qu'elle lui avait promis pour dormir. « Tout ce qui n'entre point dans le corps, dit-il, je l'éprouve volontiers. Mais les remèdes qu'il faut prendre me font peur. Il ne faut rien pour me faire perdre ce qui me reste de vie. » Un instant après, il lui prit une toux extrêmement forte et après avoir craché, il demanda de la lumière. « Voici, dit-il, du changement. » Baron, ayant vu le sang qu'il venait de rendre, s'écria avec frayeur. « Ne vous épouvantez point, lui dit Molière. Vous m'en avez vu rendre bien davantage. » Cependant, ajouta-t-il, « allez dire à ma femme qu'elle monte. » Il resta assisté de 2 sœurs religieuses, de celles qui viennent ordinairement à Paris quêter pendant le carême et auxquelles il donnait l'hospitalité. Elles lui donnèrent, à ce dernier moment de sa vie, tout le secours édifiant que l'on pouvait attendre de leur charité et il leur fit paraître tous les sentiments d'un bon chrétien et toute la résignation qu'il devait à la volonté du Seigneur. En Enfin, il rendit l'esprit entre les bras de ses deux bonnes sœurs. Le sang qui sortait par sa bouche, en abondance, l'étouffa. Ainsi, quand sa femme et Baron remontèrent, ils le trouvèrent mort.
D'entendre La dernière journée de Molière par Grimaret, lu par Maurice Escande. Chef opérateur du son, Raymond Anna. Collaboration technique, Mireille Gauthier. Bruitage, Joé Noël. Assistante de production, Catherine Lemire. Réalisation, Jacques Régnier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 décembre 1974.